Les rendez-vous M28. Racontons demain, prendre acte, relier et se projeter avec le vivant. Ce cycle de rencontres mensuelles s'inscrit dans le cadre de l'événement 25, les chemins du vivant portés par M28 Terre de Culture. Ces rendez-vous visent à relier les professionnels et publics associés à la démarche et à partager des réflexions autour de thématiques communes. Un lundi par mois, deux intervenants, artistes, chercheurs ou porteurs de projets, sont invités à dialoguer autour de problématiques thématisées à l'Hôtel d'Aurès à Montpellier, cœur battant de Montpellier 2028. Les rendez-vous M28, un projet réalisé en coproduction avec les radios du CRLO.
Bonjour, merci à vous d'être là pour ce 7e rendez-vous proposé par M28 Terre de Culture. C'est désormais nos rendez-vous réguliers dans le cadre de l'événement que nous portons, l'événement Les Chemins du Vivant, qui aura lieu du 26 septembre au 5 octobre prochain. Et nous sommes amenés chaque premier lundi du mois à traverser un certain nombre de sujets. Et aujourd'hui, nous vous proposons de parler ensemble d'hospitalité. Hospitalité aux artistes et hospitalité aux chercheurs. Parce que nous pensons, sur le territoire M28, que nous devons faire place aux artistes et faire place aux chercheurs dans un moment où cela ne va pas de soi et où cela est parfois questionné. Et nous voulons, avec vous deux, que Nicolas Dubourg va être amené à présenter, échanger dans un format libre de échange entre vous d'abord et puis échange avec vous ensuite, 20-25 minutes au début, puis une trentaine de minutes ensuite avec vous. Je laisse la parole à Nicolas Dubourg pour présenter nos intervenantes du soir. Je rappelle que ces rendez-vous ont lieu en partenariat avec le CRLO et que nous nous retrouverons, attention, pas le mois prochain, mais au mois de septembre, puisque nous faisons une petite trêve estivale de nos rencontres, puisque il y a moult propositions durant l'été. C'est ce soir la dernière avant l'été, et ensuite on se retrouve au mois de septembre. Merci.
Bonsoir, bienvenue à toutes les deux. Alors vous êtes une parfaite synthèse de mon propre parcours, puisque je peux dire que l'une est une collègue de l'université, l'autre est une collègue du spectacle vivant. Marine Chabert, vous êtes directrice adjointe au service de la direction des relations internationales à l'université de Montpellier Paul Valéry, c'est son nouveau nom. Et l'université a été récemment lauréate d'ailleurs d'un prix pour la deuxième année consécutive sur Welcome France. Donc c'est vraiment une université qui s'engage, non seulement pour les étudiants évidemment à l'échelle internationale, puisque faire venir des étudiants de certains pays, c'est loin d'être une affaire aisée pour des questions économiques, pour des questions de visa. Il y a plein de choses qui se mettent en place. Et s'agissant des chercheurs, alors là, il y a quasi aussi des fois des questions politiques qui se posent avec des pays qui peuvent être en zone de guerre, qui peuvent être des chercheurs qui travaillent sur des sujets qui peuvent être politiquement sensibles. Et puis des fois, même dans des pays qu'on croirait des safe places, comme on dit aujourd'hui, je pense aux États-Unis, on peut avoir des chercheurs qui se retrouvent aussi en difficulté. Donc la question de l'hospitalité à la recherche et à ceux qui la font, comment ça se met en place, il ne suffit pas juste de le dire. Donc quels sont les programmes concrets, quels sont les problèmes que rencontrent les chercheurs et comment une université comme la vôtre essaie d'y répondre. Et puis Marie Antunes, vous êtes donc à la direction de la Téline, qui est un lieu qui développe l'art dans l'espace public, l'art vivant dans l'espace public, et qui se pose forcément cette question-là de quand on est dans une phase de création, quand on travaille avec des artistes in situ, comment les accueillir ? Parce que être sans la boîte noire comme espace justement de travail, comment ça se passe et quelles sont les rencontres qui se passent avec des non-spectateurs a priori qui vont le devenir quelles sont les problématiques que ça veut dire aussi de travailler avec peut-être des collectivités territoriales qui financent non seulement le projet, mais qui sont confrontées au travail de ces artistes. Et puis surtout, quel est l'enjeu politique de travailler dans cette direction? Parce que je pense qu'on est avec deux militantes, d'une certaine manière, dans votre travail. Donc c'est de ça dont vous allez nous parler ce soir.
Merci. Bonsoir. Alors, je suis Marie. Oui, je dirige une structure qui s'appelle L'Ateline, qui est donc une scène conventionnée récemment, depuis 2023 maintenant, conventionnée pour les arts vivants en espace public avec une mention particulière qui n'est pas l'approche territoriale, partant du principe que la question du territoire, on la travaille de facto, puisque c'est vrai que la boîte noire n'a pas de sens chez nous, ou en tout cas n'est pas activée chez nous. Et du coup, avec une mention qui est le soutien, qui est la question de l'art et création, c'est-à-dire un noyau d'activité qui est celui du soutien à la création, qui passe par, d'une part, une attention portée aux endroits de recherche artistique, avant même de s'attaquer à la question des écritures, de l'écriture, de la production, puis des modalités de rencontre avec des populations. Tu le soulignais, Nicolas. Je crois que dans le projet pluriannuel de l'Ateline, j'utilise très peu le terme public. Alors, c'est pas une coquetterie du tout de ma part. C'est une réalité. C'est-à-dire qu'on s'adresse à des habitantes, des habitants, à des citoyens, des citoyennes, avant même de s'adresser à des personnes qui ont fait le choix. Alors, c'est parfois plus ou moins vrai, hein. Parce qu'on reste quand même dans des affaires de spectacle. Mais qui, avant même qu'il et elle aient fait le choix de devenir des spectateurs et des spectatrices. Alors, quand on parle de l'Ateline à des personnes qui sont assez éloignées de la question du spectacle vivant ou de la création, il y a une image que j'utilise, que je n'aime pas trop, parce qu'elle est, c'est forcément une image un peu en creux, c'est une définition en creux. Je dis qu'on est un théâtre sans théâtre, on est un théâtre sans mur. Et que du coup, on fait acte d'hospitalité chez les autres, principalement. C'est-à-dire qu'on fait acte d'hospitalité dans un espace qu'on définit, qu'on a beaucoup de mal à définir, parce qu'en fait, je crois qu'il y a une multitude de définitions valables de l'espace public, parce qu'elle est témoin de la multitude d'usages, et parfois des conflits d'usage, de cet espace public. C'est ce qui ramène du coup à la question éminemment politique de ce qu'on fait, puisque les artistes que l'on accueille écrivent des récits, prennent du temps pour penser ces récits. Alors des récits dont peut-être notre contemporanéité a besoin, et on va en arriver à la question évidemment de l'hospitalité, mais surtout à la question de peut-être du parallèle que je fais entre le processus artistique, le processus de recherche artistique et le processus de recherche scientifique. Je crois que c'est Monique Sicard qui dit que finalement les artistes et les chercheurs et les chercheuses vivent dans un même monde, c'est-à-dire qu'ils et elles produisent de la pensée en étant complètement influencés par un cadre, par un monde visuel, technologique, politique, et qu'en retour, ils ou elles essaient, en tout cas, ont la volonté d'avoir un impact sur ce monde-là, sur les récits de ce monde, etc. Ce que j'ai fait, parce que j'aime bien me prêter à cet exercice-là, je considère que finalement le malentendu ou le petit frottement au moment de la rencontre crée la possibilité d'une écoute véritable, parce que ça impose de se décentrer un petit peu. Donc ce que j'ai fait pour préparer, après notre échange bref la semaine dernière, c'est que je suis allée un peu me perdre sur le dispositif Pause, sur le site internet du dispositif Pause, dont tu vas nous parler dans quelques minutes. Et en fait, alors il y a qu'à aller sur la page actualité hein, de Pause pour voir l'état du monde, puisqu'on démarre par un hommage à cet architecte qui était lauréat, justement, cet architecte palestinien qui était lauréat parmi les 10 ou 11 lauréats ou 12 lauréats je crois du programme Pause qui a perdu la vie à Gaza il y a quelques jours. On poursuit par une autre actualité qui est celle d'une manifestation, d'un appel à la manifestation pour défendre la recherche partout où elle est malmenée, principalement aux États-Unis. Donc je crois que la question de Safe Place devient de plus en plus hypocrite ou anecdotique ou en tout cas assez ténue. Et du coup, je suis allée sur le programme de pause. En fait, j'ai trouvé des similitudes, énormément de similitudes. C'est-à-dire que la présentation de pause pose le constat hein, ou pose comme postulat que les artistes et les chercheurs écrivent des récits, participent au progrès social, participent au progrès économique, produisent de la pensée, produisent de la connaissance, et que en temps de conflit ou en temps de montée, on peut appeler ça d'obscurantisme ou fascisme, évidemment, ce sont les premières lignes, et surtout dans le monde actuel. Alors, c'était important pour moi de passer par cette définition-là pour vous dire un petit peu ce qui sous-tend finalement, parce que c'est pas tant le programme d'action de l'atelier qui est peut-être intéressant à partager ce soir, et je le ferai si évidemment il y a des questions là-dessus, puisqu'on a classiquement un programme d'accueil en résidence, d'accompagnement dramaturgique, on écrit une saison à l'échelle de la métropole, Montpellier-Rennes principalement, en se mettant en dialogue ou en essayant d'aller chercher des dialogues avec d'une part les élus qui administrent ces communes, ce territoire-là, et en dialogue avec les réalités paysagères, sociales, sociétales de cette entité administrative qu'on appelle la métropole de Montpellier et qui regorge pourtant de paysages et de préoccupations très très plurielles. Et voilà, c'était peut-être important pour moi de mettre l'accent sur la dimension politique. Et peut-être que je te laisse la parole avant d'évoquer ensemble la question, enfin ce que nous évoque ce terme d'hospitalité. Ça te va ?
Donc moi je suis Marine Chabert, je suis directrice adjointe des relations internationales et de la francophonie à l'Université de Montpellier Paul Valéry. Nous l'action de la direction des relations internationales est très focalisé sur la mobilité internationale. Donc autant la mobilité des, alors surtout la mobilité des étudiants, donc la mobilité entrante, la mobilité sortante, et également la mobilité des personnels entrantes et sortantes également. Excusez-moi, j'ai la voix un peu cassée. et donc on a aussi, alors ça c'est important de le mentionner, on a l'Institut l'IUFE, l'Institut français langue étrangère, qui est rattaché à notre direction et qui permet aussi d'accueillir des étudiants qui viennent étudier simplement le français langue étrangère, avec après la possibilité de, une fois qu'ils ont appris, qu'ils ont acquis un niveau de français, ils peuvent s'insérer dans des cursus disciplinaires. Et donc dans ces différents dispositifs d'accueil, on a des dispositifs d'accueil de public en exil. Donc pour les chercheurs artistes en exil, on passe par ce programme PAUSE. C'est un programme du Collège de France qui permet de cofinancer l'accueil d'un artiste ou d'un chercheur pendant un an. Donc on l'accueille à l'université, il peut continuer ses recherches ou son art pendant un an en étant justement dans une safe place. On en a accueilli, depuis que le programme existe, depuis 2017, on a accueilli 8 personnes dans ce cadre à l'université Paul Valéry. Donc nous, les relations internationales, on s'occupe de mettre en place de faire le dossier de candidature, de faire le suivi administratif, mais ensuite la personne est accueillie dans un laboratoire, dans un département, et intervient donc sur au niveau de l'université. À titre d'exemple, voilà les personnes qu'on a reçues dernièrement. On a eu par exemple, on a eu un enseignant-chercheur kurde, donc qui pouvait pas travailler dans son pays hein, parce qu'il était pas reconnu, disons, par son pays. Enfin, donc il vivait en Turquie, mais il cherchait à faire reconnaître le Kurdistan et bon. Donc il a dû se mettre dans une position d'exil. On accueille actuellement un cinéaste russe. Voilà, on a accueilli également des personnes ukrainiennes. Voilà, c'est un peu pour avoir une idée du profil. En général, il y a souvent un problème politique derrière avec leur pays d'origine. Donc voilà, après lui, la direction des relations internationales se charge également de mettre en place des projets de coopération, des projets de partenariat avec d'autres universités, d'autres institutions dans le monde. Donc on, un peu comme toi Marie, on est à la recherche de subventions pour pouvoir mettre en œuvre ces projets. Et donc on a également alors pour revenir sur l'IUFE, sur l'accueil des étudiants qui font du FLE, on a un dispositif qui permet d'accueillir une soixantaine d'étudiants par an qui sont en situation d'exil également, demandeurs d'asile ou réfugiés qui viennent apprendre le français. Voilà, ça c'est dans les grandes lignes l'action des relations internationales. Mais voilà, pour dire que la question de l'accueil, c'est une question récurrente en fait chez nous, et on est toujours un peu dans ce questionnement de comment accueillir, comment mieux accueillir, comment faire en sorte que nos usagers se sentent bien, et puis que ça soit facile pour eux, facile, le plus facile possible, disons.
Peut-être une réflexion sur ce thème de l'hospitalité. Quand l'équipe de M28 m'a proposé d'intervenir sur ce thème-là, au début, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, ça me pose question. Je n'ai pas dit problème, mais ça me posait question. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'idée d'être hospitalier ou hospitalière, il y a quand même l'idée derrière de l'accueil, d'accueillir quelqu'un, une personne qui serait en situation de fragilité, ou en tout cas en situation de vulnérabilité. Or, l'atelier n'accueille des artistes. Donc, est-ce à considérer que les artistes sont de facto des êtres en situation de vulnérabilité ? Et du coup, c'est ça qui me gênait un petit peu, ou qui me tracassait un petit peu dans cet accueil-là, partant du principe que quand même, je passe la journée, mes journées, à tenter, avec l'équipe évidemment, d'écrire des collaborations, d'écrire des alliances, d'écrire des coopérations, en tout cas des relations de partenariat. Et du coup, je me suis dit, tiens, quelle est finalement cette situation qui nous impose, enfin, en quoi c'est juste ou pas juste de poser la question de l'hospitalité. Et puis très vite est venu le fait que finalement, c'est le processus de création, certainement, qui est un état très contextuel, un état de travail, un travail déjà invisibilisé, de moins en moins financé. Et que finalement, pour lire le monde, pour lire les déviances, pour lire les dérives du réel, il faut du temps. Il faut pour ça, à mon avis, déjà des moyens. Il faut en tout cas créer les conditions. Et en tout cas, c'est ce qu'on essaie de travailler à l'atelier, aux côtés d'autres et en collaboration et en coopération avec d'autres. On essaie de créer ces espaces-temps. Et je crois que si à un endroit un peu saillant du projet de l'atelier, peut-être que, et les artistes présentes dans la salle me contrediront, je l'espère pas, ne me contrediront pas. En tout cas, on essaie de ne jamais faire peser d'enjeux de structure, d'enjeux de diffusion, de fréquentation publique, etc., aux équipes artistiques dès lors qu'elles sont accueillies soit sur des processus de recherche artistique, soit ou d'expérimentation artistique, soit sur des processus de production et d'écriture. Autrement dit, les artistes qui viennent n'ont pas besoin d'avoir un discours performant, performatif, ou en tout cas d'être déjà dans un processus de communication sur leur travail, je dis de communication publique, mais peuvent, et à mon avis doivent venir, finalement en acceptant le fait de ne pas être au courant, de ne pas avoir pris toutes les décisions sur les enjeux d'écriture, sur les enjeux formels. Ça prend du temps, en fait, non seulement de prendre le pouls du monde, c'est un peu pompeux ce que je viens de dire, mais de temps en temps, ça fait du bien, en tout cas, de prendre le pouls, de lire notre monde contemporain, et ça prend aussi énormément de temps que de penser, de façonner, de fabriquer une forme, de fabriquer un récit, d'écrire un récit, et puis ensuite de donner forme à ce récit. D'autant plus que les artistes qui créent pour l'espace public, comme je le disais, ne créent pas du tout dans un espace dédié. C'est-à-dire, c'est le principe même des espaces non dédiés. C'est que l'espace public est un... Alors, si on devait tenter une petite définition, finalement, pour moi, c'est une espèce d'organisme un peu vivant qui, en tout cas, n'est pas là et n'attend absolument pas une proposition, ni une action, ni un acte artistique quel qu'il soit. Et du coup, pour tenter ce dialogue avec cet espace-là, il y a besoin de chercher, d'essayer, de parfois échouer, d'être entouré. Donc, c'est ce qu'on essaie de mettre en œuvre, toujours dans cette démarche de coopération à l'Ateline, en proposant un regard sur la question chorégraphique ou un regard en faisant aussi appel à des chercheurs et des chercheuses qui ont une pratique de l'espace public ou sur des questions qui peuvent toucher à la sociologie, à l'ethnologie, quels que soient finalement les besoins des artistes et des projets de création. Voilà pour le moment.
En fait, pour toi, c'est qu'est-ce que ça serait les conditions pour justement pour une hospitalité qui fonctionne? Enfin, je pense que vous avez trouvé pas mal la solution à l'Ateline. C'est quand même assez exceptionnel de trouver cette possibilité de donner le temps aux artistes. Comment vous vous y prenez en fait pour réussir pour parvenir à ces conditions de trouver le temps? Enfin,
déjà, on ne fait aucun accueil en résidence si on n'a pas les moyens d'intervenir en production, c'est-à-dire de faire ce qu'on appelle un apport en numéraire, de prendre en charge tous les frais afférents à la venue d'une équipe artistique, et ensuite d'essayer de trouver le terrain de jeu, le terrain d'expérimentation. Donc, c'est soit à Juvignac, qui est une commune sur laquelle il y a, c'est Juvignac appartient à ces villes neuves, en fait, à ces villes périphériques, où la question de l'espace public est assez singulière. C'est-à-dire que c'est peut-être une espèce de miroir grossissant des dérives de l'espace public, qui sont la question du flux. Très souvent, ce sont des flux en voiture. On part de Juvignac pour aller travailler, on rentre pour aller chez soi. Il y a une définition de l'espace public qui est souvent un peu vécu comme un prolongement de chez soi. Il faut que ce soit un peu propre. Enfin, il faut que ce soit propre. Il faut que ce soit sécurisé. Il faut que ce soit tranquille. Mais toute la question de la confrontation à l'altérité, de la découverte, de la surprise, de l'acuité, finalement, se poser dans des espaces où découvrir ou redécouvrir des espaces et des perspectives sur son trajet quotidien ou sur celui de ses enfants. Découvrir aussi que qu'on a des voisins qui cohabitent, qu'on a aussi des non-humains avec lesquels nous devons de retrouver des modalités relationnelles. Donc c'est un peu tout ça. Alors la question de la réussite, elle est pour moi, enfin elle est, je crois que je préfère douter, je préfère expérimenter, je préfère réajuster le geste en permanence que de me dire qu'on réussit quelque chose. Alors, de manière tout à fait pragmatique, oui, il faut réussir à déjà sauver son budget en fonctionnement. Ce qui devient de plus en plus, je le dis en riant, mais ça n'a strictement rien de drôle. Et je crois que là, oui, si réussite il y a, c'est quand on a compris, finalement, je dis pas anticiper, mais qu'on a un peu reniflé le besoin des équipes en présence, qu'on a fait ce bout de chemin, et ouais, voilà, qu'on a établi cette situation de confiance. Et peut-être, et là on revient sur la question de l'hospitalité, peut-être qu'en fait ce qui me parle le plus, c'est que il y a deux choses, c'est que finalement, au travers de ça, de ces accueils-là, de ce processus d'hospitalité aux artistes, on participe un peu humblement, parfois avec beaucoup de malice ou en hackant un peu, les artistes d'espace public hackent ou s'infiltrent ou détournent. Parfois, on réussit à rendre aussi des territoires hospitaliers qui, a priori, n'étaient pas destinés à ça. Alors, on travaille avec la notion de réussite tout à fait relative, hein. Je crois que c'est aussi ça qui est assez beau dans ce qu'on fait, j'allais dire dans ce qu'on trafique. Et l'autre chose, c'est qu'en fait, on n'en sort jamais indemne. Et je crois que la définition même de l'hospitalité, c'est finalement de se dire, enfin, la question de la réciprocité dans l'acte d'hospitalité, elle est présente depuis que la définition existe, en fait. Donc, je pense que depuis que l'humanité existe, pour ne parler que d'un territoire que je connais à peu près, celui des êtres humains. Mais du coup, on n'en sort pas indemne, et fort heureusement.
Oui, oui, c'est un investissement personnel. C'est justement aujourd'hui, je me suis un peu fait cette réflexion parce que donc avec un des lauréats pose, on a des petites difficultés administratives et donc une collègue et moi-même, c'est vrai qu'on y passe du temps. Aujourd'hui, j'ai passé une demi-heure au téléphone avec la sécurité sociale pour essayer de résoudre un problème, mais enfin voilà, ça fait partie en fait de l'aventure se donner un peu de soi, de son temps pour que ça soit un peu plus facile pour ces personnes qu'on accueille en fait et après enfin voilà avec l'espoir que ça pourra leur permettre à ces personnes de prolonger leur séjour ou de pouvoir enfin au moins avoir cette petite bulle de tranquillité pour travailler pour créer pour produire etc.
Et j'entends que dans ta pratique professionnelle, du coup, tu es énormément axée sur les conditions de vie et les conditions de travail de ces artistes et de ces chercheurs. Et tu vois, je un peu naïvement, je pensais qu'il y avait l'université s'occupait de l'accueil de chercheurs et de chercheuses et pas forcément d'artistes. Donc c'est pour moi, c'est aussi une. Et peut-être que tu voudras nous parler peut-être plus précisément des. Je crois que vous êtes depuis le début du programme, vous êtes à 8 personnes hein, que vous avez accueillies.
Oui, voilà.
Mais au-delà de ces essentielles conditions de survie, de vie, j'imagine qu'il y a d'une part dans une pratique peut-être, enfin en tout cas dans une approche peut-être plus intime de ton travail, plus personnelle de ton travail. Qu'est-ce que ça provoque ? Est-ce que c'est finalement le fait d'être confronté à des réalités qu'on ignore, qu'on n'a pas à vivre ? Oui. Et quels sont les endroits finalement d'épanouissement ? Quand est-ce que tu sens que qu'il y a un épanouissement ou qu'il y a un endroit de... Bon, allez, je réutilise le terme réussite.
Oui. Oui, alors, donc, nous, pour revenir là sur la question des chercheurs, des artistes, effectivement, nous, c'est surtout des chercheurs qu'on accueille. Et on a eu, dans ce groupe de 8 personnes, il y a eu un artiste. En fait, il y a la possibilité d'accueillir des chercheurs et des artistes. Après, c'est vrai que dans un milieu universitaire, bon, ben, ça va être plutôt des chercheurs. Après, voilà, bon, cette question de l'épanouissement, enfin, pour nous, un peu pour les équipes, hein, tu te réfères à ça. Alors, c'est vrai que pour nous, le programme POSE, c'est toujours un challenge parce que déjà, c'est quelque chose, c'est pas souvent, c'est pas régulier. Enfin, voilà, les étudiants, on en accueille 400, 500, on en envoie 300. Les chercheurs POSE, on en accueille un tous les ans ou tous les un an et demi. Donc, c'est une petite exception dans notre activité, mais qui nous occupe notre énergie aussi. Et donc, en fait, tout est un challenge parce qu'effectivement, enfin voilà, il y a la question de l'hébergement, la question du visa, la question de la langue, la question de trouver une équipe aussi pour accueillir ces personnes. Donc, en fait, finalement, comme tout est un challenge, chaque petite avancée est une réussite en quelque sorte, même si il reste d'autres obstacles après, mais. On peut voir ça un peu comme ça, comme des petites avancées pas à pas, en fait.
Et le lien avec la société civile, est-ce que vous arrivez à le travailler ? Tu vois, est-ce que des endroits de coopération ou de parce que avant qu'on se parle, je connaissais vaguement, enfin très vaguement, j'avais entendu vaguement parler de pause. Tu vois, j'étais à milieu de, enfin pas à milieu, mais en tout cas, je ne m'étais pas posé forcément la question. En tout cas, j'avais pas forcément eu accès. Au fait que l'université Paul Valéry accueille et depuis le début hein, du dispositif et du coup comment est-ce que enfin est-ce que tu vois toi des axes de d'approfondissement de cette politique d'hospitalité est-ce que ça pourrait passer par un lien à la société civile à des coopérations avec pourquoi pas des structures culturelles des structures
oui ça pourrait tout à fait alors ça peut se faire sur les différents profils qu'on a reçus, ça peut se faire un peu par hasard, on va dire, par rapport au profil des personnes. Ben, par exemple, les Les personnes ukrainiennes qu'on a reçues, finalement, il y a eu un lien qui s'est fait avec des associations ukrainiennes de la ville. Voilà, il y a ces éléments un peu de hasard. Mais après, je pense qu'il y a clairement moyen de pousser un peu plus loin, effectivement, et de tenter. Enfin, j'ai envie de dire, maintenant qu'on connaît la Téline, par exemple, on pourrait tenter des ponts sur, je sais pas, peut-être mettre en lien ces artistes ou ces chercheurs qu'on accueille avec vos activités, vos équipes d'artistes. Je pense que ça serait possible, ça serait à envisager. Après, faut voir un peu le profil, hein, mais ce que je me suis dit moi aussi après avoir discuté avec toi l'autre jour, maintenant, enfin, j'ai ton contact et on peut, dès qu'on reçoit un artiste, un chercheur dans le cadre de ce programme, je pourrais t'envoyer le CV on peut voir où est-ce qu'il y a des rencontres possibles, en fait.
Avec plaisir. Tu parlais de cofinancement. Je reviens à des questions très pratico-pratiques, mais parce qu'elles sont
fondamentales. Sont pas anodines. Oui, alors nous, le programme POSE, en fait, cofinance donc le salaire, hein, de ces personnes, et l'autre partie est financée par l'université. Donc c'est aussi, quand on accueille, c'est aussi une décision de l'université de dire, d'accord, on met du budget pour accueillir cette personne. Voilà, c'est 60-40, enfin 60% de subvention et 40% de la part de l'université. Donc oui, c'est un sujet qui fait partie du choix d'accueillir effectivement cette question financière. Oui.
Oui, pour l'université comme pour les structures culturelles, d'ailleurs, c'est loin d'être anodin quand on sait les restrictions dans lesquelles on est sur la création des postes. Et justement, en fait, que vous puissiez un peu interagir là-dessus, c'est que quand on parle d'hospitalité, vient tout de suite la question de qu'est-ce qu'on partage. C'est-à-dire que effectivement, on a parlé des personnes qui viennent de certains pays. Alors, on se dit, eux sont dans une forme d'urgence, mais qu'est-ce que le fait de mettre en place un programme va provoquer chez nous ? Typiquement, être hospitalier réellement avec des artistes, ça veut dire potentiellement se poser la question de est-ce qu'ils vont avoir le droit de créer ce qu'ils ont envie de créer ? Est-ce qu'ils vont avoir le droit d'être dans l'espace de la même manière que tout un chacun ? Et s'agissant des chercheurs, c'est la même question. C'est-à-dire, à un moment donné, est-ce que le fait d'accueillir un chercheur qui vient d'Ukraine ou d'ailleurs, eh ben, c'est un poste de moins pour un collègue français ? Et donc, il y a aussi toutes ces questions. À chaque fois, finalement, quand on est hospitalier, qu'est-ce qu'on partage ? Et ce que M28 essaie de questionner à travers la discussion de ce soir, mais au-delà, c'est comment, finalement, institutionnellement, on met en place des petites cases, parce que ce qui était intéressant dans l'exemple que tu as donné, c'est, oui, on a travaillé le visa, après on a travaillé le billet, après on a travaillé le salaire, mais il reste toujours quelque chose à faire. En fait, ça s'arrête jamais. Mais à un moment donné, il faut bien, par le biais des institutions, essayer de dire, on structure un petit morceau. Et le fait de structurer un petit morceau va mettre en lien cette chose-là. Donc peut-être, voilà, vous entendre un peu sur, au fond, qu'est-ce qui... pour vous est fondamental, parce que vous êtes une pièce là-dedans, dans le service public, on pourrait dire, mais c'est une pièce qui n'est pas forcément évidente aujourd'hui. Donc qu'est-ce qui fait qu'on le fait quand même, et quel est l'espoir qu'on a en le faisant? Est-ce que concrètement, vous pensez qu'on peut transformer un territoire comme le nôtre et en faire plus de coopération qui amène donc à assumer davantage cette mission de service public qui est comment créer des œuvres de manière libre, comment permettre à des chercheurs de chercher de manière libre. C'est ça le sujet qui est derrière.
Bah, moi déjà, je suis une convaincue des relations internationales. Donc pour moi, à partir du moment où il y a une rencontre entre deux cultures, en fait, on est forcément sur un enrichissement réciproque. Donc bon, ça, c'est un idéal, hein, mais je pense que rien que ça, en fait, ça suffit pour justifier le fait qu'on accueille des personnes qui viennent avec avec leur culture, avec leur parcours, ça ne peut que enrichir aussi en local, en fait. Donc moi, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Même si après, parfois, bon, ben, dans la mise en œuvre, ça peut ne pas être si évident, hein, parce que voilà, ben là, on a voilà des questions linguistiques, des questions pratico-pratiques aussi. Par exemple, ces chercheurs qui viennent, on n'arrive pas forcément à leur dégager des heures de cours pour qu'ils puissent apporter leur savoir auprès des étudiants. Mais au moins ils ont cet espace, ils rencontrent des collègues, ils rencontrent d'autres chercheurs et ça peut que aller vers du plus en fait.
Peut-être que concernant l'atelier, je vais peut-être te répondre par quelques exemples parce qu'on accueille malheureusement pas tous les jours des artistes dans des situations qui sont celles du programme Pause par exemple. Pour autant, on a, il y a un an pile, on a accueilli dans le cadre d'un programme de résidence culture qui est financé par le ministère de la Culture et en lien avec le ministère des Affaires étrangères. On a accueilli un artiste, Fabrice Parézo, artiste et un acteur culturel qui vit à Lomé, au Togo, et qui pilote un festival qui tend à aller vers la question de l'espace public, la création d'un espace public, qui s'appelle Les Embuscades de la Seine. Et donc on l'a accueilli donc on a chaque membre de l'équipe a consacré du temps de dialogue, ce qui nous a un peu dérouté aussi, parce qu'il y a des enjeux aussi de différences culturelles. Notamment sur la question des relations femmes-hommes, par exemple. Donc ça nous a, nous, imposé un petit déplacement et quelques sujets au sein de l'équipe. Donc on a échangé nos pratiques de travail et puis on lui a surtout proposé d'écrire avec lui un programme. Encore une fois, on joue des alliances et des coopérations et de la mise en réseau. Donc, il a passé 3 mois, mais du coup, il a passé finalement assez peu de temps à l'atelier, enfin une proportion un peu plus restreinte à l'atelier. Mais il a été rencontré 4 ou 5 CNAREP, donc Centre National des Arts de la Rue et de l'Espace Public. Il a intégré, on lui a fait intégrer le programme OLE, qui est porté par la scène nationale Le Cratère, qui est un programme de création partagée le temps du festival Cratère Surface, donc sur la question. Donc il a rencontré d'autres artistes, il a rencontré des artistes présents au local et au régionaux, dans des processus de travail, donc ces temps d'échange plutôt formel informel. Il a été participé à un autre stage mené par la Chartreuse, le Centre National des Écritures du Spectacle. Il est venu à Chalon avec nous, à Chalon dans la rue, donc faire aussi ce qu'on appelle une veille artistique. Donc en fait, on a vraiment travaillé la question du réseau au-delà de l'activité propre de l'atelier. Un autre objet on a aussi accueilli pendant 3 ans un chercheur, donc un architecte, Marc El Samrani, en recherche, donc sur une convention CIFRE qui se pratique assez peu encore dans le champ artistique et culturel. Donc Marc est chercheur, donc il était doctorant, en train de rédiger une thèse, enfin se lançant dans une thèse dont le sujet est, sans trop abîmer le sujet, comment les médiations artistiques et numériques dans l'espace public peuvent potentiellement reconfigurer des espaces publics plus souhaitables, pour aller un petit peu rapidement. Et donc du coup, pendant 3 ans, on lui a, outre le salaire, un salaire à temps plein, une rémunération à temps plein, on lui a offert un contexte de travail et un contexte d'épreuve sur le terrain, en fait, de l'objet de sa recherche. Et il s'est investi dans l'accueil de certaines productions que nous accueillons en résidence, dans certains projets. Et finalement, ce qu'on a partagé avec lui est allé bien au-delà de ces 3 ans, puisque derrière, on a fait le choix à la fin de sa CIFRE, de le recruter. Donc, il fait maintenant partie de l'équipe. Et bon, il a une bonne partie de son temps de travail sur la com, qui est un peu le nerf d'eux, avec l'argent. Et en fait, la présence de Marc au sein de l'atelier dans cette question de recherche a fait qu'on a pu partager avec lui des enjeux liés à ce qu'on appelle chez nous la fabrique du regard, qui sont plutôt ces projets très expérimentaux ou plus expérimentaux qui se nourrissent de rencontres avec des acteurs qui ne sont pas et des actrices qui ne sont pas qui ne relèvent pas du champ culturel, donc des urbains, des géologues, des géographes, etc. Et du coup, la présence de Marc a permis de nous déplacer, ou en tout cas, on a partagé ce déplacement-là. Je trouve que ça, c'est important. C'est un peu, quand je disais, on sort pas indemne d'un processus d'accueil ou d'hospitalité. Et du coup, on a ossaturé ensemble ce volet du projet artistique et culturel et social de l'Atheline. Et un dernier exemple, après j'arrête. Là, on vient d'apprendre, il y a une dizaine de jours, aux côtés de Lieu Public, qui est le Centre National des Arts de la Rue et de l'Espace Public, qui est basé à Marseille. C'est le Centre National Historique des Arts de la Rue et de l'Espace Public. Donc, aux côtés, piloté par Lieu Public, on a écrit un projet de pôle international de production et de diffusion. Avec deux autres partenaires que sont la scène nationale du Cratère à Alès, de par leur festival avec une haute portée internationale, et la FEAR, qui est le centre de formation qui forme des artistes, des auteurs et des autrices pour l'espace public. Et nous, au sein de ce pôle, donc on fait partie des 11 lauréats. Alors, on est certes dans la logique inverse, puisqu'on est plutôt sur un processus d'internationalisation des artistes et des œuvres françaises. Mais on a tenu avec le public à écrire quelque chose de l'ordre de la réciprocité. Donc on a 5 ans pour travailler ça, enfin un peu moins, on a 5 ans de mise en œuvre. Mais du coup, c'est encore un territoire de partage qu'on ouvre sur lequel on pourra discuter dans quelques mois.
Moi, je me demandais, là, tu parlais de ce lien avec la géographie, l'urbanisme. Ça me fait un peu penser à des sujets qu'on trouve, des disciplines qu'on trouve à l'université. Est-ce que au niveau de l'Atheline, il y a déjà des ponts qui se font avec l'université dans ces disciplines ou dans d'autres manières de faire des ponts, en fait, parce qu'il me semble que tu me disais que tu avais déjà travaillé avec des enseignants de l'université.
Oui, déjà on a au sein du CA, le CA de l'Atheline, c'est un CA vraiment de compétences, et au sein du CA on a par exemple Alix de Morand qui est administratrice, et qui est Alix, qui est maîtresse de conférence, et qui est vraiment spécialiste de la question chorégraphique et particulièrement de la question chorégraphique in situ. Donc on a de manière finalement formelle, informelle, dans la pratique, dans des accueils ou dans des projets différents, des axes de dialogue finalement assez pluriel avec Alix, par exemple. On dialogue aussi beaucoup avec Marie Reverdy, qui est dramaturge mais qui est aussi philosophe et très proche des questions liées aux questions esthétiques, et qui a pris récemment la direction du DAPCE, de l'école d'architecture. On a sur certains dispositifs d'accompagnement dramaturgique, d'accompagnement à l'écriture, on invite des anthropologues. On a invité des anthropologues, des sociologues sur un processus d'accompagnement dramaturgique qui est vraiment écrit. On passe une semaine avec 3 projets de création qui sont vraiment au balbutiement. Enfin, quand je dis au balbutiement, c'est-à-dire sur lesquels les choix dramaturgiques et les choix d'écriture ne sont pas encore posés. Et on invite 5 regards extérieurs. La question de regard extérieur, là, elle prend son sens. En général, j'ai un peu de mal avec ça, parce que dès lors qu'on s'implique et qu'on apporte un regard, on apporte des compétences, on n'a plus rien d'extérieur au processus de création. Pour moi, ça porte un nom, c'est le dramaturge, souvent. Et c'est un métier. Mais là, pour le coup, sont des personnes qui viennent avec un regard spécifique, questionner les projets de création et que l'on invite en écho, en lien étroit au projet de création artistique pour le coup.
Valérie, là, ces exemples, ça peut arriver.
Okay. Et là, je vais encore faire l'erreur sur son prénom parce qu'on en a parlé la semaine dernière. Je crois qu'il y a un champ. Oui, c'est ça. Merci. Il y a un champ intellectuel qui commence à courir là, par là, qui est la question du post-humanisme. Et du coup, Vincenzo Susca, que j'ai eu l'occasion de croiser et qui est assez proche de certaines équipes artistiques que l'on peut suivre, avec lesquelles on dialogue. En fait, j'ai très envie d'arriver à créer ces espaces, voilà, un espace en tout cas de connivence ou d'échange. Et puis on a aussi tout un volet qu'on appelle les conversations, qui sont des temps de rencontre basés sur le processus conversationnel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de parole, il n'y a pas de prise de parole hégémonique pendant une heure avec une part congrue laissée aux échanges. C'est vraiment des personnes que l'on convie avec un axe thématique suffisamment large pour que on soit toutes et tous responsables de la conversation et de la façon dont elle dévie, comme on est un peu en train de le faire là, mais à plusieurs. Et là, très régulièrement, on accueille, enfin très régulièrement, on arrive à mener a priori une conversation par an. Je regarde Marc. Et là, on dialogue et on fait dialoguer artistes, chercheurs, chercheuses, publics parfois.
Et encore une petite question. L'université, c'est un espace public. Est-ce que vous êtes déjà intervenu sur l'espace public de l'université ou est-ce que c'est en projet peut-être? Est-ce que
non, on a déjà hacké le parking.
C'est déjà pas mal.
Je regarde Nicolas puisque du coup Nicolas dirige la vignette. Oui. Et je crois que c'est le quatrième co-accueil, je crois qu'on troisième ou quatrième co-accueil trois quatre co-accueil qu'on fait. Donc la première année, on a carrément hacké le parking, ce qui, je te laisserai la parole, t'a valu aussi pas mal de négociations avec l'administration. Puisque les places sont chères. C'est ça. Et puis là, à la rentrée prochaine, on va. Ah ben non, si, on a investi l'atrium, espace public aussi, avec une proposition de. Et ça y est, son Frédéric Aitouati, sur la question de l'habitat. Et à la rentrée prochaine, en début de saison prochaine, on va co-accueillir un spectacle, et cette fois sur un espace public qui n'appartient pas à l'université, mais qui est vraiment le parvis, donc devant le portail Vassarelli. Donc là, on fera une demande d'occupation du domaine public en bonne et due forme.
Merci à vous.
Les rendez-vous M28, un projet réalisé en coproduction avec les radios du CRLO.